et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous interactif qui durera, vous le savez, puisque vous êtes très nombreux à vous y rendre, une demi-heure. Nous avons donc jusqu'à 19h30, temps universel, pour débattre d'une question, pour échanger autour d'une question fondamentale. Et cette question nous est apportée par un point de l'actualité, le Tadjikistan, qui a annoncé le 3 novembre qu'il était désormais interdit à tous les imams formés à l'étranger d'exercer sur le territoire, dans le pays. Une mesure prise, on l'imagine bien, pour lutter contre la radicalisation. Alors, dans un contexte global où les responsables religieux musulmans sont souvent désignés comme inspirateurs de la radicalité, où en sont les imams africains? C'est-à-dire, comment sont-ils formés? Nous aurons avec nous en direct depuis Abidjan Djigiba Cissé, lui-même imam et propriétaire de notre radio partenaire Al Bayan à Abidjan. Vous avez certainement, chers auditeurs, des questions ou des réflexions sur le sujet. Vous pouvez les partager avec le plus grand nombre sur la page Facebook de VOA Afrique en prenant bien soin de nous laisser vos numéros de téléphone. Vous pouvez également nous appeler directement au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. C'est le numéro du standard de VOA Afrique grâce auquel nous allons pouvoir échanger dans la vingtaine de minutes qui nous reste. L'imam Cissé est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir monsieur, ou bonsoir madame.
Oui, c'est plutôt madame, merci d'être avec nous.
Monsieur, alors, bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous l'êtes en direct depuis Abidjan. Cette question de la formation des imams oui. Dans ce contexte de radicalisation et de terrorisme pose d'abord et avant tout la question de leur responsabilité face à ce phénomène. Selon vous, quelle est la responsabilité des imams face à ce phénomène de radicalisation?
Merci. Je pense que le phénomène de radicalisation est lié à beaucoup d'autres choses. Ça peut être dû à des situations de précarité, de formation, du contexte sociopolitique et économique. Alors tout ça entre en ligne de compte. Et des études sont faites et bien d'autres choses. Mais en termes de responsabilité, je pense que nous, en tant que religieux, en tant qu'imams, il y a un dénominateur commun qui nous intéresse tous. C'est le volet éducation, formation et encadrement de fidèles. Depuis le jeune âge jusqu'à l'âge adulte, ou même je dirais plus loin que ça, il y a ce que constitue notre devoir et notre responsabilité.
Alors vous dites, vous parlez d'éducation, vous parlez d'éducation et j'entends proximité quelque part dans ce que vous dites, être oui. plus proche de vos ouailles en fait, plus proche des croyants.
Tout à fait, c'est ça le but et même la responsabilité d'être plus près des fidèles, des ouailles, et puis bon, répondre à leurs préoccupations, les orienter, leur conseiller la voie à suivre pour être dans la dimension verticale avec Allah, c'est-à-dire que le contact, le rapport entre le fidèle et Dieu, et le rapport et la responsabilité du fidèle par rapport à son environnement. Et ça, c'est la dimension sociale et sociologique de l'islam. On ne fait pas seulement, on ne pratique pas une religion par rapport seulement à Dieu, mais on vit dans un environnement socio-culturel, économique et même politique. Et en cela, nous avons l'enseignement qui doit être donné, c'est de faire en sorte que la religion soit un moyen de contribution à l'équilibre de notre société, l'équilibre de l'individu et l'équilibre de notre société afin de prévenir même les conflits les plus compliqués qui puissent être, que la religion soit une part des solutions aux problèmes auxquels l'Afrique est confrontée.
C'est entendu. Une solution au problème plutôt que le problème ou le détonateur D'une manière ou d'une autre, Imam Cissé. Alors, justement, la figure de l'imam, et vous l'avez remarqué certainement aussi bien que moi, depuis, disons, le 11 septembre 2001, est de plus en plus questionnée, alors qu'elle était simple, évidente. Il s'agissait d'un responsable religieux, au même titre que les prêtres ou d'autres. Elle est de plus en plus questionnée. On se demande de plus en plus, au fond, comment devient-on imam? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question pour nos auditeurs? Comment devient-on imam sur le continent africain?
Mais il y a plusieurs approches. On peut être imam par hérédité. Bien sûr, par hérédité, mon grand-père, mon père et bien d'autres ont été imams. Donc, j'ai été préparé à être imam. Et donc, dans cette succession, j'ai la compétence, de par ma formation, de par mon éducation. Alors, à ce moment-là, je deviens imam. Et dans certains cas, dans certaines villes, cet imamat est héréditaire. Il y a dans un second cas où on est imam parce qu'on est dans une communauté qui a besoin d'imams et on cherche parmi les personnes formées dans ce domaine-là pour les inviter à être imams et à diriger donc non seulement les prières mais la communauté par l'enseignement, par l'éducation et par l'information sur les préceptes de l'islam et répondre ainsi aux préoccupations des uns et des autres. Il peut arriver qu'il y ait de l'imamat improvisé, qui peut être le fait de certaines personnes qui savent peut-être lire un peu l'arabe, qui savent un peu être bribe de quelque chose, au borne des droits, au pays
au pays des aveugles, les borgnes sont rois.
Et celui-là qui devient alors imam par circonstance. Il peut être bon, comme il peut arriver, bon, qu'il se trouve être plutôt une personne vraiment dans cette autoproclamation n'est pas toujours la personne idéale pour être imam. C'est-à-dire la connaissance du livre saint qui est le Coran, la connaissance des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de l'histoire de l'islam, la connaissance du droit islamique, la connaissance. Il y a un certain nombre de il y a un contenu.
Il y a une espèce, ce que vous êtes en train de nous dire, Imam Cissé, c'est qu'il existe une espèce de charte du bon imam et qu'il faut, il faut effectivement faire attention et peut-être au cours de l'émission, nous direz-vous que cette préoccupation autour de la formation, finalement, pourrait être une bonne chose à la fois pour les ouailles et pour la société, les sociétés dans lesquelles les musulmans évoluent tout ensemble. Allons au standard, du côté du standard, vous pouvez l'imaginer, de très nombreux auditeurs voudraient soit exprimer leur point de vue, soit vous poser une question. Et nous allons commencer avec les Diallo Tierno, Oumar Diallo, et qui est un auditeur guinéen. Bonsoir. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs et à votre invité du jour.
Vous êtes le bienvenu. Alors, vous questionnez un peu la décision d'interdire des imams venus d'ailleurs.
Tout à fait, à mon avis, ce genre de mesure, c'est discriminatoire et anti-islam parce que moi, je me demande comment un pays qui se dit majoritairement musulman puisse prendre ce genre de décision. C'est très dangereux quand je vois derrière cette décision des hommes politiques, hein, c'est des actes politiques parce qu'à mon avis, ça n'a rien à voir d'aller faire les études d'arrêt. Ailleurs, c'est les autres, parce que les grandes universités, tout part chez toi, c'est les autres, au lieu de rester chez toi et puis dire qu'automatiquement tu vas diriger les prières alors que tu n'es pas en connaissance du livre saint et des autres versets coraniques. C'est mieux d'aller étudier ailleurs quand on dit que d'interdire ça, c'est d'interdire la radicalisation. Non, pas du tout. À mon avis, aller faire des études à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec la radicalisation, parce que radicalisme,
Oh, quel dommage d'avoir été coupé. Diallo Thierno, Omar Diallo nous a laissé un mot nous expliquant justement, je vais terminer ce qu'il voulait dire. Pour lui, la radicalisation ne vient pas d'un pays ou de la religion elle-même, mais plutôt, et elle rejoint ce que vous nous disiez, même si c'est en début d'émission, les frustrations sont source des problèmes, et c'est vrai en islam, comme ailleurs. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à appeler le standard de VOA Afrique 001 202 205 26 33. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Nous sommes en plein cœur de dialogue des religions. Aujourd'hui, nous questionnons la formation des imams sur le continent africain. Même si c'est, vous êtes toujours avec nous en direct d'Abidjan.
Oui, je vous suis.
La réaction de notre auditeur, Diallo Thierno Omar Diallo, me mène tout naturellement à vous poser la question de votre opinion sur cette décision du Tadjikistan d'interdire d'entrée de territoire et surtout d'exercice, en fait, plutôt que de territoire, d'exercice des imams formés à l'étranger. Est-ce que vous pensez que c'est une décision salutaire pour préserver le pays de radicalisation dont il souffre aussi ?
Non, je pense qu'il faut nuancer cette approche. Il faut nuancer. Nous avons des jeunes qui sont allés étudier soit au Maroc, ou bien en Tunisie, ou bien en Algérie, ou bien en Égypte, ou bien en Arabie Saoudite. La formation, elle est à la fois théologique, elle est aussi littéraire. C'est une formation qui est assez importante, qui a un contenu. Maintenant, toute formation a besoin d'adaptation et de connaissance du terrain. Alors, on ne peut pas dire systématiquement ceux qui ont fait leurs études ailleurs ne peuvent pas être imams chez nous, en Afrique, en Guinée, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien au Mali, ou bien en Mauritanie, etc., etc. La formation est un tremplin pour être imam. Maintenant, nous avons... Là où je peux être un peu d'accord avec lui, c'est que la formation se fait dans un contexte, ça peut être dans un pays ou un autre d'Arabie, et l'analyse ou l'approche sociologique de la religion n'est pas la même en termes de contexte. Il y a le test et le contexte. Quand on arrive, on doit tenir compte du contexte d'application de la connaissance religieuse, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas des convertis. L'islam est chez nous depuis le 10e siècle, le 11e siècle. Donc, il y a eu des érudits, des très grands savants qui ont laissé même des écrits. Et lorsqu'on va dans les universités arabes, ce n'est pas pour découvrir un nouveau visage de l'islam. Il y a des connaissances dont on a besoin.
Il s'agit d'un approfondissement.
Oui.
Il s'agit d'un approfondissement et d'un enrichissement.
Il s'agit d'un approfondissement et d'un enrichissement. Et il y a une nouvelle idée qui est en train d'émerger. Nous avons depuis 5 ans un institut international de formation des imams en Côte d'Ivoire, initié par le chef des imams, le président des imams. Et nous avons au moins une troisième génération qui vient de sortir de cet institut, qui est devenu même une université. Il s'agit de former des jeunes imams, des imams même qui connaissent le contexte sociologique et culturel et même économique de notre pays et qui connaissent la culture locale. Ce n'est pas une adaptation de l'islam à un contexte en tant que tel, mais il s'agit de savoir quelles sont les priorités, quels sont les besoins de notre terroir et comment la religion peut être un tremplin pour le développement et pour la paix dans notre sous-région. Et c'est ça qui est l'une des préoccupations essentielles. Il ne faut pas le prêche qu'on fait en Arabie Saoudite, qu'on fait en Égypte, qu'on fait ailleurs, n'est pas, même si le thème est le même, mais l'approche sociologique n'est pas la même.
Et elle ne peut pas, elle ne peut pas être la même.
Les informations ne sont pas les mêmes.
Et même si c'est accueillant, d'autres auditeurs qui ont certainement aussi envie de soit vous poser une question, soit partager leur point de vue, c'est aussi l'idée de cette émission.
D'accord.
Et qui est avec nous au moment où nous parlons? Bertin Tomnabel, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, vous, Bertin, vous pensez que trier les imams est nécessaire, trier les imams selon l'origine de l'information est nécessaire, parce que vous estimez que les imams venus d'ailleurs viennent avec des idées très étranges. Vous pouvez nous en dire plus sur ce « très étrange » ?
Vraiment, merci de m'avoir donné la parole et merci à tous les étudiants de la Louvre à tous. Probablement, à ce sujet, à interdire les imams d'aller étudier dans les pays étrangers, c'est une mesure nécessaire.
Alors ça, nous l'avons compris. Ma question est, qu'est-ce que vous appelez très étrange, des idées très étranges? Vous dites que les imams formés ailleurs viennent avec des idées très étranges. À quoi pensez-vous précisément?
Moi, à travers les idées très étranges, je fais allusion au terrorisme. Puisque dans mon pays, quand on dit imam, on appelle un petit arabe, c'est-à-dire celui qui doit dire et on doit obéir et se soumettre tous. Donc, c'est par rapport à ça que je qualifie des idées un peu étranges. Si celui qui part étudier ailleurs, c'est qui vient avec, il demande à ta communauté de l'appliquer, personne ne va contester, puisque la religion, c'est le dogme.
C'est intéressant. Ça tombe quand même assez bien, Bertin. La vie est assez bien faite puisque nous sommes avec un imam en ligne, l'imam Cissé à Abidjan, qui nous disait exactement l'opposé de ce que vous disiez. Il nous disait juste avant votre intervention que précisément les études à l'étranger sont vécues comme un enrichissement, un approfondissement. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertin?
Envoyer un imam à l'étranger, il faut étudier et déposer un critère de sélection. Savoir qui on doit l'envoyer et de son retour, comment on doit le contrôler. Puisque de nos jours, les terroristes prennent de l'ampleur à tel point qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc pour approfondir un peu les choses, quand même, déposer un critère de sélection meilleur. Et celui qui vient doit aussi dire ce qu'il a reçu, mais pas détourner le sens.
Merci Bertin pour votre intervention. Faites comme Bertin, vous avez encore quelques minutes pour le faire d'ailleurs. 001 202 205 26 33 si vous souhaitez poser une question à l'imam Cissé ou si vous voulez comme Bertin partager votre point de vue. Imam Cissé, dans ce que Bertin vient de nous dire, je voudrais vous faire réagir sur une chose, le tri, la sélection des imams formés à l'étranger. Alors, il a fini par se ranger à l'idée que, bon, peut-être pas jeter le bon grain avec l'ivraie, mais plutôt faire le tri, trier le bon grain de l'ivraie. Mais alors, du coup, est-ce que vous êtes favorable, vous, à cette sélection, à une sélection des imams et un contrôle, surtout? C'est le mot fort qu'il a employé, un contrôle des imams.
Alors, je pense que la formation de n'importe quel théologien, que ce soit musulman ou bien ailleurs, l'objectif est d'informer les fidèles, de les former, de les orienter et d'être à leur écoute, que ce soit intimement ou bien que ce soit de façon générale, autour des sermons dans les mosquées et des conférences qu'on donne sur les principes, les vertus de l'islam. Il n'y a aucun enseignement dans le Coran et dans les enseignements du prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, qui invite à la violence, qui invite au terrorisme et qui invite au radicalisme. Il s'agit d'envoyer un message de paix pour soi-même, un message de paix pour les autres et un message de construction et de construction de la solidarité, de la fraternité, de l'amour entre les hommes d'une façon globale. L'islam, aucune religion n'enseigne la haine. Il peut se trouver qu'à l'intérieur de l'individu lui-même, s'il est mal formé, alors il viendra avec un schéma étriqué ce qui peut être un danger pour la société. Mais
dans ce cas, vous allez dans le sens de notre auditeur, c'est-à-dire que bien sûr que l'esprit de la lettre, c'est ça, c'est que on prône l'amour et faire en sorte que le tissu social fonctionne bien. Dans les faits, et on sentait l'inquiétude de Bertin, c'est autre chose qui est transmis au nom de cette religion dont vous êtes l'un des représentants et l'un des responsables. Et vous disiez justement si quelqu'un est mal formé. Alors comment on fait pour détecter un imam avec des intentions plus sombres, disons, et peut-être qui ne suivent pas la lettre du Coran?
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a trois types d'imams. Il y a les imams traditionnels qui sont de familles héréditairement devenus imams. Il y a des imams qui sont également par leur formation et leurs connaissances et leurs vertus sont cooptés par des communautés pour être leurs imams. Et ces personnes-là sont formées et ils savent qu'ils viennent pour un travail bien donné. Il y a des imams qui peuvent être des imams autoproclamés et qui n'ont pratiquement aucune formation en tant que telle.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux ?
Il n'y a pas de cadre de formation qui puisse inviter à venir détruire la quiétude des fidèles ou qui enseignerait une haine quelconque contre une autre religion. Bien au contraire, c'est ça. Son inquiétude peut être fondée lorsqu'on voit des gens autoproclamés qui se disent imams ou bien religieux qui ne le sont pas et qui disent ce qu'ils passent dans leur tête par rapport à leur ressentiment.
Mais la question, imam Cissé, qu'est-ce qu'on fait de ces brebis galeuses? Qu'est-ce qui est prévu dans, si je puis dire, l'administration musulmane?
Par leur extrémisme et un certain nombre de choses négatives, les autorités religieuses musulmanes du pays l'interpellent. Et ça, on le sait. C'est pour cela que chez nous, comme cela se fait aujourd'hui au Maroc depuis 2 ans ou 3 ans, la formation des imams. Nous avons un institut depuis 5 ans qui forme des imams et qui sait ceux qui sont aptes à devenir imams. Et ceux qui sont formés, ils sont aptes à être imams parce qu'ils connaissent leurs devoirs, leurs responsabilités par rapport à la paix, par rapport à un certain nombre de situations que nous souhaitons en Afrique.
Alors précisons, imam Cissé, que l'institut auquel vous faites référence est l'Institut Afrique 3i, qui a ouvert ses portes le 15 octobre 2009 à Abidjan. Il est situé, pour nos auditeurs abidjanais, à la Riviera Bonouma, dans l'enceinte du centre culturel islamique Arafat, dans la commune de Cocody. Et le but de cet institut, est de former, selon le système licence, master et doctorat, et de permettre aux imams d'étudier et de réfléchir sur les grandes problématiques de l'islam contemporain. Ils peuvent aussi bénéficier de l'enseignement de la langue arabe. Retour au standard pour quelques minutes avec Payamfou Gabvourné. Bonsoir.
Bonsoir madame. Bonsoir.
Est-ce que j'ai bien dit votre nom d'abord? C'est Payamfou.
Payamfou
Gabvourné. Ok, très bien. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Gabvourné. Vous trouvez, vous aussi, vous allez dans le sens de tous les auditeurs jusqu'ici. Vous trouvez que l'islam, vous trouvez que c'est une bonne chose que de ne pas laisser entrer des imams formés à l'étranger.
Effectivement, madame, moi, je trouve que cette décision est salutaire.
Alors, attendez, avant que vous continuiez, est-ce que vous avez entendu les développements et les explications et les arguments de l'imam Cissé?
Oui, effectivement, j'avais su.
Et qu'est-ce que vous en pensez? Malgré ça, vous restez campé sur votre position?
Ok, moi, je dirais tantôt que je trouve que cette décision est salutaire pour moi, parce que je donne mon point de vue.
Alors, bien sûr.
Envoyer quelqu'un aller étudier ailleurs pour venir s'imposer, parce que dans chaque pays, on a les droits, on a la religion musulmane a des principes, il y a des règlements à suivre. Donc, envoyer quelqu'un aller étudier ailleurs et revenir imposer ce qui ne va pas dans un pays, je pense que ça marche pas.
Je ne suis pas persuadé, monsieur Gabvourné, que ce soit le but de ceux qui vont étudier à l'étranger et que ce soit l'idée quand on revient. Nous avons eu le temps d'en parler, on ne va pas refaire l'émission maintenant. Retournons-nous vers un autre auditeur, le dernier. Brahima Doumbia.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Brahima. Malheureusement, vous avez 15-20 secondes pour vous exprimer.
Effectivement, je pense que l'islam est contre la violence, l'islam est contre le terrorisme, comme on le dit. Il faut le rappeler, aujourd'hui, c'est vrai, on constate qu'il y a beaucoup d'imams ou bien beaucoup de gens qui passent se former à l'extérieur et qui reviennent avec d'autres idéologies et qui veulent imposer, alors que la réalité, il faut le faire avec. Parce que ce sont les vieux, par exemple, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire avec le sexe profanant, qui crime, qui se bat pour que l'islam des vérités ou l'islam de la lumière soit répandu partout dans Côte d'Ivoire, et alors que des jeunes qui viennent avec...
Voilà, les 20 secondes sont écoulées. Merci beaucoup, Brahima, et navré de vous interrompre de cette manière, mais nous sommes pris par le temps. Merci à vous, Imam Cissé, d'avoir partagé avec nous votre savoir et votre point de vue. Merci à tous les auditeurs qui ont participé, à ceux qui ont voulu participer, pardon, ne pas avoir pu prendre tout le monde. Merci, restez sur VOAfrique.